Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Et ce journal en français facile vous est présenté par Anthony Latier. Je suis accompagné par Céline Missoff. Bonsoir.
Bonsoir Anthony et bonsoir à tous.
Voici les grands titres de ce journal. Les funérailles des victimes turques du raid israélien contre la flottille de la paix pour Gaza ont eu lieu à Istanbul. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant les cercueils.
6 hommes ont accepté d'être enfermés ensemble pendant 18 mois dans une fausse navette. Ils vont simuler les conditions d'un voyage vers la planète Mars.
Samantha Stosur affrontera samedi Francesca Schiavone en finale du tournoi de tennis de Roland-Garros. L'Australienne et l'Italienne créent toutes les deux la surprise en accédant à ce niveau de la compétition.
Le journal en français facile.
Des milliers de personnes se sont donc rassemblées aujourd'hui à Istanbul, en Turquie.
Elles sont venues prier en hommage aux victimes du raid israélien de lundi qui a stoppé la flottille humanitaire à destination de Gaza. Les cercueils des 8 victimes turques de l'opération ont été alignés devant la foule. Ils étaient recouverts de drapeaux palestiniens et turcs. Jérôme Bastion.
Comme il fallait s'y attendre, c'est une foule importante qui s'est retrouvée à la mosquée de Fatih ce matin, l'une des plus grande de Turquie et la plus conservatrice. Autour des cercueils drapés des couleurs turques et palestiniennes, il y a probablement plus d'une dizaine de milliers de fidèles, relativement calmes jusqu'à ce que la prière commence. Maudit soit Israël, peuple palestinien frère, quelques slogans ont tout de même fusé, ils devraient se multiplier encore après l'homélie funèbre et au moment de l'enterrement. Cette cérémonie n'est en effet qu'un prélude aux multiples rassemblements, à commencer par la grande prière du vendredi, demain, qui sont annoncés jusqu'au week-end et où l'on verra très certainement se renforcer le sentiment pro-palestinien et surtout anti-israélien de la rue turque. L'association IHH, qui se dit prête à repartir à l'assaut du blocus de Gaza, va ainsi aisément recruter de nouveaux volontaires pour cette nouvelle expédition non moins risquée. Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Et la 9e victime est américaine. Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient enquêter sur sa disparition. Il ne s'agit pas pour l'instant d'une enquête criminelle.
Ce soir, deux chaînes de télévision israéliennes affirment que Benjamin Netanyahou envisagerait d'alléger le blocus imposé à la bande de Gaza. Le Premier ministre pourrait permettre à des navires marchands de gagner le territoire palestinien, mais à condition que leur chargement soit inspecté. Cette information n'a pas été confirmé pour le moment.
Dans le même temps, le rapatriement des personnes qui se trouvaient à bord de la flottille se poursuit. 6 passagers français sont arrivés à l'aéroport de Roissy cet après-midi. Ils sont membres d'associations d'aide aux Palestiniens. Ils ont qualifié l'assaut mené par les commandos israéliens d'extrêmement violent et de disproportionné.
En Turquie, le représentant de l'Église catholique a été tué.
Monseigneur Luigi Padovese a été poignardé à mort dans sa maison par son chauffeur dans le sud du pays. Les autorités pensent qu'il ne s'agit pas d'un acte politique. Le Vatican, pour sa part, se dit consterné. À Rome, la correspondance d'Antoine-Marie Isoard.
Parvenue brutalement à la veille du départ de Benoît XVI pour l'île divisée de Chypre, la nouvelle de l'assassinat du président des évêques de Turquie est venue jeter une ombre sur le déplacement du pape. Vicaire apostolique pour la région de l'Anatolie, Monseigneur Padovese, un religieux capucin de 63 ans, a été assassiné à coups de couteau par son chauffeur. S'il est difficile de comprendre encore les motifs de ce crime, celui-ci pèsera cependant sur les 3 jours que Benoît XVI s'apprête à passer à Chypre. L'évêque d'origine italienne est loin d'être le premier religieux à être assassiné en Turquie, mais il devait participer ce week-end aux messes présidées par le pape sur l'île de Chypre, à quelques mètres à peine de la ligne verte qui sépare la Chypre grecque de la Chypre du Nord, la partie turque. Monseigneur Padovese devait aussi, avec plusieurs évêques et patriarches d'Orient, recevoir symboliquement des mains de Benoît XVI le texte de travail du prochain synode convoqué à Rome en octobre. Une assemblée d'évêques convoquée par le pape pour travailler, justement, sur le témoignage des catholiques au Moyen-Orient. Antoine-Marie Zohar, Rome, RFI.
Dans le golfe du Mexique, le groupe BP poursuit sa nouvelle opération pour tenter de stopper la fuite de pétrole qui dure depuis maintenant 6 semaines.
La compagnie a réussi la première phase, couper le conduit à l'origine de la fuite. Les ingénieurs vont maintenant poser par-dessus une sorte d'entonnoir pour ensuite pomper le flot de pétrole à bord d'un navire en surface. Demain, le président américain Barack Obama est attendu une nouvelle fois sur place en Louisiane. Le gouvernement américain va présenter une première facture à BP. Elle s'élève à 69 millions d'euros. La somme a été dépensée pour lutter contre la marée noire.
En France, après le passage de la tempête Xynthia en février dernier, l'État avait annoncé que 1500 maisons seraient détruites dans les départements de Charente-Maritime et de Vendée. Aujourd'hui, le gouvernement semble revoir sa copie.
Dans une interview au journal Le Parisien, le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, annonce qu'il y aura des destructions de maisons, mais seulement au cas par cas. Pour autant, Xavier Machuron-Mandat reste prudent. Il est vice-président de la Vif, une association de sinistrés de la faute sur mer.
On a l'impression qu'en effet l'État reconnaît qu'il va devoir respecter la loi. C'est un peu cela que l'on observe à travers la déclaration du ministre. Bon, c'est bien ça. Mais en tout cas, nos avocats ont toujours dit que la décision qui avait été prise du zonage était une décision illégale. Donc il faut qu'on travaille au niveau légal parce que les déclarations aux journaux, ça n'est pas une manière de traiter d'un point de vue administratif et légal la situation de toutes les victimes et de toutes les personnes qui sont dans l'incertitude actuellement. La déclaration du ministre n'est pas une déclaration administrative. Ce que je veux dire par là, c'est que sa déclaration n'est qu'une déclaration. Elle n'annule pas officiellement la décision administrative qui nous a été notifiée.
Xavier Machuron-Mandat a été interrogé par Laurence Théo.
En Belgique, la police est aux trousses d'un homme armé qui a fait feu dans un tribunal du centre de Bruxelles.
En pleine audience, il a abattu une juge de paix et son greffier. On ne connaît pas encore le mobile de son acte. C'est la première fois qu'un magistrat est assassiné dans l'enceinte d'un tribunal dans le pays, selon le ministre de la Justice. Une enquête a été ouverte.
L'Ukraine dit non à l'OTAN. Le pays a entériné son statut de non-aligné.
Le Parlement a voté ce texte en première lecture. Le projet d'intégration à l'Alliance Atlantique était porté par l'ancien président, mais le nouveau chef de l'État en a décidé autrement. Viktor Yanukovych est réputé plus proche de la Russie.
Comment vivre maintenant avec plusieurs de ses semblables enfermés pendant plus de 500 jours? C'est l'expérience qui a commencé aujourd'hui dans la banlieue de Moscou.
6 volontaires, 3 Russes, 1 Chinois et 2 Européens sont entrés dans une fausse navette. Ils vont simuler de façon le plus réaliste possible un vol habité vers Mars. Patrick Chompré.
Comment réagiront les membres de l'équipage qui partiront un jour vers la planète rouge, un voyage qui durera à peu près 520 jours aller-retour, 520 jours à vivre ensemble dans un espace confiné sans voir la Terre? C'est pour étudier l'impact psychologique d'un tel voyage que cette expérience est réalisée. Organisée par l'Institut russe des problèmes biomédicaux de Moscou avec le soutien des agences spatiales européennes et chinoises, l'expérience va suivre dans une sorte de vaisseau qui restera à terre évidemment le comportement de 6 jeunes hommes parmi lesquels Romain Charles, un ingénieur français, sélectionné comme les autres participants après de très nombreux tests.
Étant enfant, je voulais être astronaute, comme beaucoup de petits garçons. Et j'ai vu beaucoup de mes amis perdre ce rêve et rentrer dans la vie active. Et j'ai toujours voulu garder ça quelque part, en orientant un peu ma carrière au niveau scientifique, parce que je suis convaincu que l'homme ira sur Mars bientôt. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, j'en serais ravi.
Coupés de tout pendant 18 mois, les 6 hommes vont se livrer à de très nombreuses expériences scientifiques et psychologiques et avoir le même emploi du temps que les astronautes qui iront un jour vers Mars. Quand ils sortiront de leur caisson, nous serons en novembre 2011.